Bonsoir à chacun.
Et que le Seigneur soit béni pour la joie de sa présence et de la parole du Seigneur. Alors, ce soir, j'aimerais partager un texte avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. Il nous est parlé d'un homme qui a été très négligent. C'est la parabole des deux serviteurs. On va la lire, s'il vous plaît. Luc, chapitre 12, verset 41. C'était des avertissements qui ont été donnés sur le retour du Seigneur. Vous y croyez, vous, au retour du Seigneur? Bon. Jésus donne des avertissements, des enseignements, et voilà la conclusion. Luc 12, on va lire le verset 40 pour vous montrer que c'est bien la conséquence. « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pierre lui dit « Seigneur, est-ce à nous ?» ou à tous que tu adresses cette parabole. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Alors, je ne sais pas s'ils ont tout compris après l'explication de la parabole, mais il nous est parlé au verset 47, vous avez vu, de quelqu'un qui a connu la volonté de Dieu et qui n'a rien préparé. Il y a des gens qui ne préparent rien. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà préparées? Vous avez déjà préparé un voyage. Est-ce que vous avez déjà fait un voyage de noces, est-ce que ça peut se présenter? Et est-ce qu'il faut préparer un voyage de noces? Oui, est-ce que ça se prépare? Oui. Si vous deviez aller travailler à l'étranger, est-ce que vous auriez un conteneur à préparer ou non? Est-ce que ça peut se présenter? Ça, tiens, je vais partir travailler au Canada. Ah, il me faut un conteneur. Qu'est-ce que je vais prendre? Il me faut faire toute une liste. Est-ce que c'est normal quand on part travailler au loin qu'on prépare une liste? Oui. Bon, on peut préparer la retraite. Il y a des gens quand ils prennent la retraite, ils le savent 6 mois à l'avance. Il faut qu'ils fassent tel et tel et tel et tel et tel papier pour pouvoir toucher la retraite 2 mois après qu'ils l'ont obtenu, etc., etc. On est dans un monde où on est tout le temps en train de préparer quelque chose. Si vous préparez le mariage, il faut penser à tout, 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 tout. Les témoins. Qui c'est que je vais prendre comme témoin? Les témoins. Qui c'est que je vais prendre? Si on prenait 2 minutes pour voir tout ce qu'il faut préparer pour un mariage. C'est impressionnant, non? La liste des choses qu'il faut préparer pour un mariage, entre l'apéritif à l'église, l'apéritif au restaurant, les bagues, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à préparer, la robe de mariée, le costume, les invités, le repas, le vin blanc, le vin mousseux, il y a des dizaines et des dizaines de choses. Et on le fait, et on le prépare, et on s'applique à préparer. Et quand vous parlez des choses spirituelles, les gens ne préparent rien. C'est quelque chose de terrible. On est capable, moi j'ai fait une liste, même une opération. Quand on se fait opérer, les gens les préparent à l'avance. On dit voilà, il ne vous faut pas manger de ceci ou de cela. Il vous faut faire attention à ceci, à cela. Il faut bien vous préparer, vous soigner, vous laver, tatati, tatata. Arriver 48 heures avant ou 24 heures en fonction. Tout le temps, on est en train de nous préparer à plein de trucs, à plein de trucs. Un concours. Il y a des gens qui passent des concours. 1 an avant, ils se préparent. Ils préparent un concours. Voilà, je vais bûcher tous les jours, etc., etc. Voilà. Bon, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Dans le monde, on se prépare. Et pour la chose la plus importante, on ne se prépare pas. Alors que toute la Bible nous dit, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est un commandement. Et les gens prennent ça à la légère, ils prennent ça n'importe comment, alors qu'on devrait être sérieux avec la préparation de l'éternité.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un des pasteurs là, qui a prêché il y a 3 ou 4 semaines, qui avait fait allusion, dans un pays scandinave, il y a des chrétiens d'une église qui, à la période de Noël, ils se sont cotisés pour payer sur ces panneaux publicitaires, vous savez, à l'entrée du village, et il n'y avait qu'un mot sur le panneau. Un mot, ils ont fait mettre. Éternité. Ils ont fait mettre un mot, l'éternité. Éternité ou l'éternité. Et au bout de 3 semaines, les gens ont fait enlever le panneau. Vous vous rendez compte? Les gens ont fait enlever le panneau. Le maire a reçu des courriers. Mais qu'est-ce que c'est ce panneau? On n'a pas besoin, nous, de voir ce mot tous les matins quand on va au travail, quand on rentre le soir. Ils ont fait enlever le mot éternité qui était affiché. Alors que des affiches pornographiques, je peux vous dire que ça, ils ne les font pas enlever. Mais ça vous montre que l'homme ne veut pas se préparer à rencontrer Dieu. Et pourtant, il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Vous et moi, vous avez la pensée de l'éternité. Vous avez réfléchi, tiens, s'il y avait quelque chose après, mais l'infiniment grand, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, etc. Et comme un jour, un monsieur est venu et tout content, il m'a dit, vous avez prêché sur la pensée de l'éternité, mais moi, je peux vous dire que je n'ai pas du tout la pensée de l'éternité, et je ne rigole pas, c'est vrai. Et puis, j'ai dit, mais je vous plains, parce que si vous n'avez plus la pensée de l'éternité, c'est que votre cœur s'est vraiment, vraiment endurci. Je ne doutais pas que ça soit vrai. Je ne pensais pas qu'il me mentait. Mais je crois vraiment que quand quelqu'un n'a plus la pensée de l'éternité, c'est que ça va vraiment très mal. Et si vous ne pensez pas à votre éternité, vous êtes vraiment mal en point. J'espère que de temps en temps, ça vous arrive de dire, mais quand même, s'il y a un paradis, s'il y a un enfer, à qui sont-ils réservés? À qui est réservé le paradis? À qui est réservé l'enfer? Ce sont des choses sérieuses. On voit dans ce texte que Jésus, qui parle de son retour, explique qu'il y a des gens qui préparent et des gens qui ne se préparent pas. Alors on ne va pas rester sur ce texte, mais j'aimerais quand même vous montrer qu'il y a dans ce texte une vérité qui ressort, c'est qu'il y a des gens qui sont hypocrites. Est-ce que Jésus a souvent dénoncé les hypocrites? Est-ce que vous avez lu les évangiles? C'est impressionnant le nombre de fois où Jésus parle des hypocrites. D'ailleurs, ce même texte, vous pouvez le lire avec moi dans Matthieu au chapitre 24. Dans Matthieu au chapitre 4, il y a le même texte à peu près. C'est Matthieu chapitre 24. C'est à peu près le même texte. Et là, il parle des hypocrites, des serviteurs hypocrites. Alors, Matthieu 24. C'est quelque chose que Jésus a beaucoup dénoncé. Quand on voit comment il a traité les gens de mauvaise vie, les pécheurs, les prostituées, il les a amenés à la foi, il les a amenés à la victoire. Il ne les a pas maltraités. On voyait cette sollicitude, cette bienveillance, cette tendresse, cette pédagogie pour amener les gens bas tombés à la croix, à la grâce. Mais avec les hypocrites, c'est un truc de fou, comment Jésus a dû être extrêmement sévère. Parce que l'hypocrisie, c'est un choix d'être double, en fin de compte. J'ai cherché la définition dans le dictionnaire. Vice qui consiste à déguiser son véritable caractère, à feindre des opinions, des sentiments et surtout des vertus qu'on n'a pas. Dans une version plus moderne, il est dit quelqu'un qui joue la comédie, qui porte un masque. Pourquoi Jésus a-t-il été sévère avec les hypocrites? Est-ce que Jésus n'aimait pas les hypocrites? Est-ce que Jésus aimait plus les pécheurs que les hypocrites? Non, Jésus aime tout le monde pareil. Mais le Seigneur a dû être sévère avec les hypocrites parce qu'il y a besoin d'un électrochoc. Il fallait qu'il les secoue absolument. Alors regardez avec moi dans Matthieu 24, puisque je ne vous ai pas lu le texte. Vous voyez, c'est la fin de cette même parabole, en fin de compte, où Jésus nous exhorte à être vigilants. Et il dit au verset 51, « Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec... » Les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Jésus, il connaît, il vous connaît. Est-ce que ça vous rassure que Jésus vous connaisse bien? Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous affole? Mais j'espère que ça vous rassure. Si ça vous affole, c'est que vraiment vous avez choisi le mal. C'est que vous choisissez vraiment volontairement de vivre dans le péché. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Jésus, il connaissait le cœur de tous les hommes. Vous, vous ne connaissez pas la personne en face de vous. Vous la connaissez, vous? La personne en face de vous, vous la connaissez? Vous voyez le bout de son nez, comme moi, je ne vois que le bout de votre nez. Mais Dieu, il connaît le fond de votre cœur. Est-ce que c'est bien? Même les plus grands hommes de Dieu, je pense à Samuel, qui a été un homme hors pair, avec un discernement pas possible, quand il s'est présenté devant toute la famille d'Isaïe, où il devait choisir le futur roi d'Israël, quand il a vu Eliab, il a dit, oh, c'est sûr, c'est, certainement, c'est loin de l'Éternel, c'est lui, voilà, et il va vers lui, et Dieu lui dit, non, ne regarde pas cet homme, je l'ai rejeté. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour celui qui aime la vérité, pour celui qui dit, mais moi, de toute façon, je m'en fiche de la religion, ceci, cela. Moi, je veux la grâce de Dieu. Parce que je crois qu'à partir du moment où on déforme la Bible, toutes les religions, toutes, même les nôtres, si on est dans ce cadre-là, elles sont mauvaises. On n'amène pas les gens à une religion, on amène les gens à la croix, au Seigneur Jésus-Christ. Tout le reste, ça sert strictement à rien. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il a été sévère avec ses pharisiens. Regardez, on est dans Matthieu, au chapitre 23. Il s'adresse à des pasteurs. Les pasteurs, si aujourd'hui Jésus devait parler à une pastorale. Ouais. Bon, Matthieu, chapitre 23. Regardez le nombre, on va lire que quelques versets. Vous êtes prêts? Vous êtes bien accrochés? Il parle à des pasteurs. Il commence, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Je ne sais pas la tête qu'il devait faire. Je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer. « Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Bon, c'est pas fini. Verset 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Et c'est vrai qu'on peut faire... Vous voyez, tout à l'heure, il y avait un monsieur qui est venu pour la première fois. Il est venu pour la première fois et il me dit, voilà, j'ai compris ce que je dois faire. Il faut que je vienne à l'église, il faut que je lise ma Bible et il faut que je prie. J'ai dit, non ! Il me regardait les yeux comme ça. Non, ça ne sert à rien. Il vous faut donner votre vie à Jésus-Christ. Et il vous faut obéir au Seigneur. Parce qu'on peut faire toutes ces choses sans obéir à Dieu. Et voyez le problème des pasteurs, des pharisiens, de tout ce que vous voudrez, des prêtres, qui que vous voulez, les gens, ils veulent du monde. Mais je pense que c'est une erreur. Le problème, ce n'est pas le monde, c'est d'entendre la vérité. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas aller dans une église où il y a du monde, où il n'y a pas du monde, où il y a de l'argent, où il n'y en a pas, où il y a ceci. Ce que vous avez besoin, c'est d'entendre la vérité. Il n'a pas fini le Seigneur. Ils ont dû repartir le soir et ne pas rigoler. Matthieu chapitre 23, verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre. » C'est extraordinaire, vous vous rendez compte? Les missionnaires. « Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un nouveau chrétien. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. » Franchement, j'aurais aimé voir la tête de ces hommes. Vous rendez compte de la sévérité? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est sévère? Non? Vous ne trouvez pas que c'est sévère, vous? C'est sévère ou c'est pas sévère? Mais si, mais c'était la vérité. Ils avaient besoin d'entendre. Comme quoi, voyez, ce n'est pas la peine de faire plein d'efforts pour évangéliser les gens si on ne les amène pas vraiment à la croix, si on ne les amène pas vraiment à l'obéissance. Vous avez vu ce qu'il dit? Mais vous en faites un fils de la gêne, c'est-à-dire de l'enfer. Vous amenez des gens au temple, et quand ils sont dans le temple... Vous en faites des fils des ténèbres. Je vous assure, ils devaient être furieux. Ils devaient être furieux, c'est écrit plusieurs fois qu'ils étaient furieux contre Jésus. Mais c'est bien, parce que nous, qui sommes là ce soir, nous sommes en train de nous dire, mais en fin de compte, qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, Dieu veut que je sois un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Je ne sais plus qui c'est qui me disait l'autre jour qu'il a vu une prédication sur Internet, ou oui, ça y est, je vois qui c'est, qui me disait que la prédication, elle est mélangée avec le péché. Et on maintient les gens aujourd'hui à moitié dans l'église, et en même temps ils sont dans le péché. C'est-à-dire que, voilà, ils viennent à l'église, ils croient, ils prient, ils lisent leur Bible, ils se promènent avec la Bible sous le bras, on a l'impression que c'est des chrétiens, mais dans le résultat, les gens vivent dans le péché. Ma femme, l'autre jour, a discuté avec une personne, pendant une heure, elle lui a menti 5 ou 6 fois. Et c'est une chrétienne de Pentecôte. Et c'est ce que Jésus est en train de dire, mais c'est grave, parce que vous amenez, vous parcourez la terre entière pour trouver des gens qui vont se tourner vers Dieu, et quand ils sont devenus chrétiens, vous ne les amenez pas à cette entière sanctification. Et vous avez vu le verdict? Ça, c'est la quatrième fois qu'on dit, non, troisième. Malheur à vous. Verset 16. Malheur à vous, conducteur aveugle. Ah, c'est sûr qu'ils n'étaient pas habitués à se parler comme ça entre eux, sûrement.
Plus loin, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !»
Ça faisait beaucoup, non? Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup?
Bon, « Parce que vous payez la dîme... » Ah, ça c'est bien. « Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anise et du cumin. »
Ah, c'était bien ça, non? Ils arrivaient au temple, ils avaient payé la dîme de la menthe. Vous avez de la menthe dans votre jardin? Qui c'est qui a un jardin? Moi, dans mon jardin, il y a un petit bout de menthe, comme ça, là, comme le pupitre. Dans beaucoup de jardins, il y a... Voilà. Et le gars, il arrive, il prenait son petit coup, son ciseau, clac, clac, 10% de la dîme. Il arrivait au temple. Rendez compte, si j'arrivais au temple le dimanche matin, à l'église, imaginez que ce soit plus l'argent, mais que j'arrive. Oh, monsieur, bon, qu'est-ce qu'il est spirituel. Regardez, dans le cajou. Il y a un petit paquet de menthe, il y a un petit paquet de ciboulette, il y a un petit paquet de thym. Oh, ce pasteur, mais qu'est-ce qu'il est spirituel. Il a même pensé à donner la dîme de la ciboulette. C'est formidable. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? L'apparence. Et Jésus est d'une sévérité, mais grave. Vous donnez la dîme de la ciboulette. Et qu'est-ce qu'on n'a pas lu la suite? Et que vous négligez, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et il y a des pasteurs, ils sont comme ça. À partir du moment où quelqu'un donne la dîme, « Ah, mais c'est bien, vous êtes un bon chrétien. Ah, vous faites votre offrande, mais c'est bien. Écoutez, que Dieu vous bénisse, c'est bien. Vous savez, vous contribuez à l'œuvre de Dieu. Vous savez, voilà, on fait ceci, on fait cela. » Mais c'est, tout ça, c'est grave. Parce que si vous donnez la dîme, c'est bien. Parce qu'il le dit, là. Il le dit après, il le dit. C'est là, la fin du verset, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Mais vous croyez que c'est pas parce que quelqu'un m'a donné la dîme, il va aller au ciel? Quelqu'un ne va pas aller au ciel parce qu'il donne de l'argent à Dieu. Quelqu'un va aller au ciel parce qu'il a décidé de marcher dans la fidélité. Le plus important, on l'a lu, c'est quoi? La justice. La justice, c'est quoi la justice? Les gens, ils chantent en boucle, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, tu vas plus le faire chanter. » Et sa justice, les gens, ils chantent ça depuis des décennies et ils sont incapables d'expliquer ce que c'est la justice parce qu'ils n'ont pas pris, ils ont pas pris le temps. La justice, voilà, c'est que j'obéis à Dieu. La Bible parle des sacrifices des insensés. La Bible parle des sacrifices de justice. C'est quoi le sacrifice des insensés? Allez, vous allez m'aider, comme on n'est pas nombreux ce soir, vous pouvez parler. Si vous avez été bien enseigné, si vous êtes dans une église où vous avez un bon pasteur qui vous enseigne, vous êtes capable de dire ce qu'est le sacrifice des insensés. C'est quoi le sacrifice des insensés? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un service dans l'église, mais qui n'obéit pas à Dieu. Je prends l'exemple d'un pasteur. Je peux prêcher très sérieusement. Vous me suivez? Je peux prêcher parce que je sais prêcher. Donc je peux vous donner l'impression que j'applique un service, comme dit Caroline. Je m'applique à la prédication. Mais est-ce que parce que je prêche, j'obéis à Dieu? Comment? Et voilà, pas forcément. C'est ça le sacrifice des insensés. Le sacrifice des insensés, voilà, je sers Dieu, je travaille pour Dieu, je dois faire 39 heures par semaine. Ben, je fais mes 39 heures par semaine, je suis un pasteur, je fais mon boulot. Mais si ce soir je rentre là et que je regarde une cochonnerie à la télévision, est-ce que je suis spirituel? Non, c'est ça le sacrifice des insensés. Et c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Mais écoutez, mais vous donnez la dîme de la menthe, mais vous avez négligé la justice. Les sacrifices de justice, c'est j'obéis à Dieu. Que je sois là, que je sois à la maison, que je sois dans la voiture, que je sois avec des païens, que je sois avec des chrétiens, que je sois avec des pauvres ou des riches, j'obéis à Dieu. C'est ça la justice. Quand il est dit chercher le royaume de Dieu et sa justice, voilà, j'obéis à Dieu tout le temps. Un chrétien est venu me voir jeudi, et il m'a dit, écoutez, monsieur Gauche, j'en ai marre d'être un hypocrite. Je veux devenir un véritable chrétien. J'ai eu un entretien avec lui, on a prié, et il était heureux parce qu'il a décidé, pourtant il a mon âge, un peu plus âgé même, il a décidé à 55 ans de se mettre à obéir à Dieu. Il est chrétien depuis seulement 20 ans. Mais voyez un petit peu, au bout de 20 ans, il a pris la décision d'obéir vraiment à Dieu. C'est ça, chercher la justice. C'est pour ça que Jésus est sévère. Jésus n'est pas sévère pour le plaisir d'être sévère. Mais Dieu sait quand est-ce qu'on a besoin de tendresse, parce qu'on a besoin de tendresse et de consolation. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a besoin de tendresse? Allez. Oui ou non? On a besoin de consolation. À des moments, on a besoin de câlins, de tendresse, de douceur. On a besoin de bienveillance. Mais il y a des moments. Il faut que ça soit sérieux. Et le gars qui n'a rien préparé, c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas secoué comme il fallait. Si les gens ne sont pas conscients qu'il y a un enfer qui est réservé aux gens qui ne se tournent pas vers Dieu, ben c'est parce qu'on n'a pas été sérieux. Tous les chrétiens, moi je les plains, les pasteurs ou les prêtres, qui ne disent pas qu'il faut vraiment naître de nouveau, se convertir, vraiment se repentir. Moi je les plains. Parce que Jésus peut dire à tous ces pasteurs et à tous ces prêtres, malheur à vous, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Et vous leur faites croire qu'en donnant l'argent, en donnant leur dîme, en ayant un service dans l'église, ils sont sauvés. Et ce chapitre 23, vous pouvez le lire plusieurs fois, et vous vous rendez compte qu'à 7 reprises, Jésus traite ses pasteurs d'hypocrites, parce que c'est archi grave que de tromper les gens. C'est pas les aimer. Et je peux vous dire que moi, Jésus a dit ces choses sévères, ils étaient furieux, ça c'est écrit plusieurs fois, mais ils auraient dû dire, mais c'est vrai, j'ai la charge des âmes, j'ai la charge de vous aider, après vous acceptez pas, ça c'est votre problème, mais vous devez entendre que si vous voulez aller au ciel, il vous faut passer par la croix et continuer à obéir. La justice. Oui, tu m'as justifié par ton sang. Merci pour ces cantiques qui nous rappellent combien Jésus est Dieu. Il est descendu pour mourir à notre place. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice. Mais si je suis sauvé par Jésus-Christ, je dois entretenir mon salut jusqu'à la fin. Et moi, je vous assure que ça m'arrive presque tous les dimanches de voir des gens qui viennent et qui me disent, mais monsieur Gau, je réalise que je crois en Dieu, mais je vis dans le péché. Eh bien, on va régler ça. Ou alors il y a des gens qui partent et ils ne veulent pas. Ce n'est pas une obligation d'obéir à Dieu. Dieu respecte ce libre arbitre de vouloir obéir à Dieu. Dieu connaît le cœur de chacun. Alors j'aimerais qu'on lise un verset ensemble dans 2 Chroniques. On continue pas, on arrête sur les hypocrites. Allez, on va arrêter, ça suffit. 2 Chroniques chapitre 16. 2 Chroniques chapitre 16, c'est un verset, moi qui m'a beaucoup fait de bien dans des moments difficiles. Oui, dans des moments où j'étais dans l'épreuve, dans 2 Chroniques au chapitre 16, regardez ce qui est dit. C'est un verset qui en dit long sur ce qu'on partage ce soir. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Dieu voit votre cœur, il sait. Il sait si vous vivez vraiment avec un cœur entier pour Dieu ou si vous êtes un hypocrite. Et Dieu vous le dira. Dieu vous aime trop, il ne va pas vous laisser dans le péché si vous croyez être dans la vérité. Parce que, laissez-moi vous dire, on l'a vu dimanche matin, quand il a dit beaucoup, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas, Jésus s'adresse à tout un tas de gens qui s'imaginent qu'ils sont prêts. Comme je disais à ce monsieur tout à l'heure, moi j'ai bien compris la leçon. Je viens à l'église, je lis ma Bible et je prie. Vous voyez ? Et il y a des gens, ils s'imaginent, qui sont chrétiens ? Parce qu'ils font ça. Non ! Il faut avoir un cœur tout entier au Seigneur. Et le Seigneur vous soutiendra. Je ne sais pas si c'est important pour vous d'être soutenu dans ce monde de malades, de ténèbres, de fous, et ça va faire en empirant. Vous avez vu les infos ? Vous avez vu les infos ? Vous avez vu combien c'est agréable ? Et ça va faire un empirant. Laissez-moi vous dire que ça va faire un empirant. Et ce n'est rien à côté de ce qui est prévu après quand Jésus reviendra chercher les chrétiens. Si vous avez lu l'Apocalypse à partir du chapitre 6, je vous assure que les informations après l'enlèvement de l'Église, ça va être chaud. Excusez-moi l'expression. Hein. Alors pourquoi ne pas être à l'abri du jugement ? Pourquoi ne pas se préparer ? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça ne vous intéresse pas d'être à l'abri ? Quand vous savez qu'il va pleuvoir des cordes, qu'il va grêler, qu'il va faire un orage, c'est pas bien d'être à l'abri ? Si vous saviez que dehors il pleut et que vous êtes là à l'abri, est-ce que vous ne préférez pas être à l'abri ? C'est pareil. C'est exactement la même chose. Quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes à l'abri. Celui qui demeure à l'abri en Jésus-Christ, il demeure à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une grande bénédiction et c'est ce que Dieu veut. Quand il est mort sur la croix, si vous voulez, c'est un peu comme un paratonnerre. Il a pris la foudre, il a pris la colère de Dieu et nous, si nous sommes à la croix, nous sommes protégés donc de cette colère qui vient. Donc, votre cœur est-il entier pour le Seigneur ? Je ne demande pas si vous êtes catholique ou protestant ou évangélique ou pentecôtiste. Quand vous allez au ciel, quand vous allez arriver au ciel, je m'avance un peu, mais on ne va pas vous poser la question. Tu étais de pentecôtiste ? Toi, tu étais presbytérien ? Ah bon ? Tu connaissais la doctrine ? Non. Est-ce que vous avez été entier pour le Seigneur ? Est-ce que vous avez donné votre cœur ? Est-ce que vous êtes passé par la repentance ? Est-ce que tu as accepté Jésus comme Sauveur et comme Seigneur ? C'est ça. Les gens qui, mais de toute façon, les gens le sauront, ne vous inquiétez pas. Les gens le sauront. Dieu, Jésus, connaît. Et il vous demande une chose, il nous demande de ne pas être un hypocrite. Et je termine avec cette pensée, parce que c'est quand même important par rapport à cette communion. Lorsque Jésus enseigne sur la prière, parce que les apôtres sont étonnés de la façon dont Jésus prie, et à un moment donné, il dit, mais enseigne-nous à prier. Ils sont touchés de voir cette communion que Dieu, que Jésus peut avoir avec le Père, et il dit, enseigne-nous à prier. Et il dit, mais quand vous priez, ne priez pas comme les hypocrites. C'est écrit où ça? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On le lit ou on ne le lit pas? Allons, on le lit. On termine avec ça, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, il le dit bien. C'est quelque chose de très sérieux. Parce que la prière, est-ce que c'est une bénédiction la prière? Est-ce que vous avez envie de prier des fois? Est-ce que vous avez envie de faire connaître à Dieu vos besoins et de le louer? Mais déjà d'obtenir certaines choses, est-ce que c'est important pour vous? Ah oui, c'est important. Mais un peu, c'est important. Regardez Matthieu chapitre 6, donc il enseigne sur la prière, ce fameux canevas de prière qu'est le Notre Père. Mais voyez, qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Il dit, mais lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous voyez? Qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. La prière, c'est merveilleux la prière. Mais si on est hypocrite, qu'est-ce que ça va? Ça ne va pas dépasser le plafond. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils se découragent, ils ne prient plus, parce que leurs prières ne sont pas exaucées. Ouais, j'ai prié, ça ne sert à rien, j'ai prié, Dieu ne m'entend pas. Ben oui. Si Dieu est aussi sévère envers l'hypocrisie, c'est parce que la prière, ben, ça s'arrête au plafond. Mais moi, je crois que la prière, elle peut monter jusqu'au ciel. Elle peut monter. Et Dieu peut l'entendre, croyez-moi. Je vous donne ce petit témoignage. Vous savez qu'on est en voie de trouver un local, parce que celui-ci est trop petit, par le jeudi soir, mais les autres, il est trop petit le dimanche. Et on a fait des démarches à Ramonville, là où on a trouvé le local, parce que la réglementation est assez cossue, et il faut une centaine de parkings pour le local. Et Intermarché, il y a 300 places de parking. Aldi, il y a une centaine de places de parking. Et quand on leur a demandé il y a quelques mois, ils ont dit non. Ils ont dit non. Et puis on en a parlé avec le conseil d'administration. Je leur ai dit, mais écoutez, si c'est la volonté de Dieu, Dieu inclinera leur cœur. Ah bon, vous croyez, monsieur Wu? Je dis, mais oui. Est-ce que c'est écrit dans le Proverbe 16, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il incline favorablement le cœur de ses ennemis? C'est écrit ou c'est pas écrit? Bon, c'est écrit. Il dit, écoutez, si la volonté de Dieu, Dieu inclinera leur cœur. Et le responsable des travaux, il a été à Intermarché la semaine dernière, il a été chez Aldi la semaine dernière, et ils ont donné le papier. Et pourquoi? Eh bien parce que Dieu, il entend les prières. Et moi j'ai dit, mais vous pouvez être certain que si c'est la volonté de Dieu, Dieu inclinera leur cœur. Ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est pas adressé aux hypocrites, c'est adressé aux gens qui pratiquent la justice. Alors, mes frères et sœurs, il faut se préparer. Préparez votre voyage au Canada, votre voyage au Kenya, je ne sais pas, vous le préparez, que ce soit pour 15 jours, que ce soit pour 2 ans, vous allez le préparer. Vous n'allez pas préparer votre éternité. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Préparez-vous, marchez dans la justice. Vous avez vu, moi je les plains, je vous le dis franchement, je les plains, tous ces pasteurs qui font croire aux gens que parce qu'ils vont à l'église, que parce qu'ils lisent la Bible, que parce qu'ils prient, que parce qu'ils ont un service, c'est pas la peine de vous inquiéter, vous servez le Seigneur, ça va bien. Si vous n'obéissez pas, eh bien vous n'irez pas au ciel. Alors on va fermer les yeux, on va demander au Seigneur qu'il nous aide à être vrai, à pratiquer la justice, et croyez-moi que celui qui cherche la justice, toutes choses lui sont données par-dessus tout. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, et nous savons que si tu as été autant sévère avec ces religieux, c'était pas pour les blesser, c'était pour les éclairer. Seigneur, nous acceptons ta sévérité parce que nous voulons véritablement le paradis, la gloire, l'honneur. Et tu vois, Seigneur, dans cette ville, tous les chrétiens, tous les croyants qui ne sont pas prêts à te rencontrer, tous ceux que l'on a trompés, tous ceux qui, à cause de cette hypocrisie, à cause de cette duplicité, on les a trompés. Seigneur, nous voulons marcher dans la vérité. Tu bénis ta parole. Et tu vois ce soir s'il y a quelqu'un qui veut aller au ciel, quelqu'un qui veut marcher dans l'obéissance, donne-lui d'aimer la justice, d'aimer ta parole. Seigneur, tu ne nous as pas créés pour qu'on aille en enfer, tu nous as créés pour qu'on aille au ciel. Et Seigneur, tu permets des réunions comme celle-ci pour nous parler. Oui, Jésus, nous voulons être de ceux qui ont le cœur tout entier pour toi, parce que nous savons que tu nous soutiendras et que tu nous garderas jusqu'à la fin. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.